J'aimerais parler de l'affermissement.
Et le message que je vais vous donner ce matin va retracer un peu, dans les grandes lignes, le pourquoi nous sommes là, la vision de l'Église, et cette vision de l'Église au travers de certains textes de la parole de Dieu qui ont été des textes fondateurs dans notre vision et dans notre marche. Par rapport à l'affermissement, Dieu ce matin veut nous affermir. Il veut affermir l'œuvre de ses mains. Il veut nous affermir. Colossiens 2, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, enracinez, fondez en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. » Donc cette notion d'enracinement, de fondation, d'affermissement dans la foi. Un deuxième texte, 1 Pierre 5, 10. « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Et j'aimerais citer maintenant le texte qui est vraiment le texte pour aujourd'hui. C'est un texte qu'on connaît bien, Ésaïe 54, versets 11 à 15. Et j'aimerais prendre ce texte comme tremplin de rappel de la vision du pourquoi nous sommes là. Ésaïe 54, 11 à 15. « Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, je te donnerai des fondements de saphir, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. » Donc juste par rapport à ce texte, bon, j'aimerais quand même rappeler le contexte. Vous savez, souvent, on prend un texte de la Bible et c'est vrai qu'il nous parle pour aujourd'hui. Mais je crois que s'il est né dans un contexte particulier, c'est qu'il veut aussi nous parler par rapport à ce contexte. Ésaïe, c'est vraiment ce prophète qui a exercé son ministère au royaume de Juda. Vous savez, nous sommes en 740 avant Jésus-Christ, mort du roi Ozias. Il était contemporain d'autres prophètes, un Michée, Osée en même temps, au royaume du Nord. Lui était royaume de Juda. Et vous savez qu'Ésaïe, c'est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament, après les psaumes. C'est vraiment un livre très très particulier, très prophétique. Ésaïe n'était pas un pauvre prophète, c'était un prophète qui avait accès à la cour du roi. On pense qu'il était de famille royale, aristocrate en tout cas. Donc on voit que Dieu utilise des pauvres, des riches, il a besoin des intellectuels, il a besoin des pêcheurs, de tout. Mais là, il a pris Ésaïe, qui avait un cœur, qui avait le souci de la politique internationale. C'est un homme qui n'était pas seulement un homme avec une vision locale, il avait une vision des nations. Et c'est en ce sens qu'il nous intéresse aujourd'hui, parce que nous n'avons pas seulement une vision locale, Dieu nous demande d'élargir nos cœurs et d'avoir la vision des nations. C'est l'héritage du Seigneur. Donc Ésaïe a annoncé l'exil. C'était difficile de parler d'un exil. On aime bien entendre tout ce qui va bien, et puis lui, il a annoncé un exil à cause de désobéissance du peuple, etc. Et à la fin de son mandat de prophète, il y a eu un roi qui s'appelait Manassé, un roi terrible, qui a fait précipiter tout le peuple dans l'apostasie. Et bien, au-delà, le prophète annonce qu'au-delà de l'exil, après l'exil, il y aurait un rétablissement. Il y aurait un rétablissement de toutes choses. Et il annonce un avenir pour le peuple de Dieu. Et notre texte se situe dans ce contexte-là. Donc c'est un contexte pas évident. Les armées d'Assyrie menace d'envahir Juda, trouble, incertitude au niveau international. On ne sait pas si on pourra encore habiter là où on est dans les mois et les années qui viennent. Peur du peuple qui ne savait pas ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il faut faire des alliances avec d'autres pays contre la Syrie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Ésaïe a été celui qui s'est levé dans cette période de trouble. C'est lui qui a annoncé des siècles avant un libérateur, le roi Cyrus. Alors pourquoi? C'est très étonnant parce que pour trouver un prénom d'un roi, un nom d'un roi des siècles avant, beaucoup ont dit mais c'est pas possible. Mais l'esprit prophétique était là jusque dans le détail. Et c'est une démonstration que Dieu est le maître de l'histoire. Alors il a présenté aussi la venue du Seigneur par des poèmes, ce qu'on appelle les poèmes, il a parlé du serviteur. Et voilà pourquoi ce livre nous touche tant. Et les chapitres 40 jusqu'à 66 parlent du retour des exilés, mais au-delà de ça, ça parle d'une époque de restauration. Et cette époque, Jésus est venu pour restaurer toutes choses. Et donc, cet esprit de restauration, c'est l'esprit du Christ. Et la description de la restauration dans ces chapitres, c'est la description de ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Donc voilà ces chapitres, et un chapitre qui a été d'ailleurs repris dans l'Apocalypse. Alors, il est dit que Dieu veut faire de nous des pierres dans une muraille, et il parle des pierres d'antimoine. Et là, ce texte nous décrit une Jérusalem qui est restaurée, qui est belle. Et là, le premier point que j'aimerais souligner, c'est la vision que Dieu donne à Ésaïe, c'est une vision de la finalité. Voilà le but. Voilà, le but, c'est cette restauration. Le but, c'est cette Jérusalem composée de pierres vivantes. Est-ce que quand tu fermes les yeux pour ne pas voir tout ce qui est autour, mais pour essayer de voir ce que Dieu voit, est-ce que tu vois l'Église restaurée et le pays restauré? Est-ce qu'il y a dans notre cœur le rêve de Dieu d'une nation qui est restaurée, d'une Église qui est belle? Et Dieu la voit déjà comme ça. Mais en même temps, Dieu continue ce travail de restauration. Voir la beauté d'une nation et la beauté de l'Église du Seigneur et la condition de la restauration. Ceux qui ont le discernement pour voir tout ce qui ne va pas ne peuvent pas être dans le plan de restauration de Dieu. Dieu cherche des amoureux des nations. Dieu cherche des amoureux de lui et de l'Église. Quand on est amoureux de Dieu, on est amoureux du corps de Christ. Quand on est amoureux du corps de Christ, on est amoureux de Dieu. Quand on est amoureux de Dieu, on est amoureux des nations. Et donc il voit cette splendeur. Rappelez-vous, il a commencé son ministère en voyant la gloire de Dieu. Dieu commence toujours à nous montrer une vision. Quelle est la vision qui est dans notre cœur? Et cette vision, c'est une vision de restauration. Rappelez-vous Martin Luther King, tout a commencé par un rêve. Et vous savez, tout commence par des rêves. L'ennemi veut nous briser nos rêves. Il veut nous faire baisser les bras. Il veut arrêter nos rêves. S'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de foi possible. La foi, elle se nourrit des rêves de Dieu. Et ces rêves, Dieu veut les ranimer. J'ai fait un rêve. Quel est le rêve que tu as fait? Ésaïe a pu parler des rêves. Ce n'est pas seulement des rêves. Il a vu la restauration. Et c'est parce qu'il a vu la restauration qu'il a pu annoncer le Christ. Il l'a vu bien avant cette restauration. Alors, d'autres traductions dans le Semeur disent « Vous avez été édifiés sur le fond... » parlent de ces pierres d'antimoine. D'autres parlent de pierres de jaspe. Donc, il y a plusieurs traductions possibles. Mais ce qu'on sait, c'est que cette pierre d'antimoine, c'est la pierre, ou pierre de jaspe, c'est la pierre de la tribu de Benjamin en particulier. C'est une pierre qui est d'un bleu intense, parfois de couleur verte, et une pierre en tout cas d'un grand éclat. Et la Bible nous rappelle que nous sommes ces pierres vivantes. Donc il n'y a pas de restauration d'une ville, d'une nation, sans que les pierres soient enchâssées, soient avec le mortier mises les unes avec les autres. Et ça, c'est le début de la restauration. Je fais partie d'un corps. Je suis soudé à un tel, à un tel. Et je ne choisis pas ma place dans la muraille, mais je l'accepte et je la reçois et je me laisse solidement attaché. Et c'est dans Éphésiens, chapitre 2, lorsqu'il est dit « En lui, tout l'édifice bien coordonné », chapitre 4, s'élève pour être un temple saint. L'édifice bien coordonné, bien coordonné. Donc c'est ça le corps de Christ. Hein. Il y a, la restauration se fait avec une coordination et se fait avec les pierres qui sont vivantes et qui se mettent les unes auprès des autres. Un pierre de cinq, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Voyez, édifiez-vous comme des pierres vivantes. Donc cette image de l'édifice sur les apôtres, les prophètes, un édifice bien coordonné, Éphésiens 2, 20, 21, bien coordonné. Ça, c'est important par rapport à la vision d'Ésaïe de restauration. Pas de restauration sans ordre. Et donc le christianisme ne consiste pas à faire ce qu'on veut. Le christianisme consiste à recevoir ce que Dieu est, ce que Dieu a, et à être dans une relation d'alliance avec des pierres vivantes et pas seulement avec Dieu. L'alliance avec Dieu, c'est une alliance les uns avec les autres. Et ça, c'est tellement important. Donc voilà, les pierres d'antimoine, ça c'est cet édifice qu'il fait avec ces pierres. Et puis, il nous est dit dans le texte qu'on a lu, voilà, je vais te donner des fondements de saphir. Et vous savez, la Bible dit dans Psaume 11, 3, « Quand les fondations sont détruites, que pourra faire le juste ?» Et donc, nous avons à être beau des justes dans le Seigneur, et nous sommes justes à cause du sang de Jésus. Mais la Bible dit, si les fondations d'un pays sont détruites, tu peux être juste, mais qu'est-ce que tu peux faire ? Et Dieu nous dit, l'Esprit de Dieu est sur toi. Il est sur toi non seulement pour guérir les yeux des aveugles, libérer les opprimés, mais pour rebâtir les fondements antiques. Et souvent, dans les milieux charismatiques, on s'arrête au verset 1, 2, 3 d'Ésaïe 61, et c'est essentiel. Nous sommes pour la guérison, nous sommes pour les miracles. Mais Dieu dit que tout ça, ça aboutit à autre chose qui consiste à rebâtir les fondements même d'une société. Et ça, ça parle de réforme. Ça parle de réforme. Et c'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi nous nous battons. Nous voulons plus que la guérison. Nous voulons la guérison d'une nation. Nous voulons, et c'est ça notre cœur, nous voulons la guérison de la culture. Nous voulons que notre culte soit tellement débordant, tellement passionné, qu'il va, je le dis souvent, déborder sur la culture. Et c'est pour ça que le mandat de cette église et le mandat de Caleb, c'est d'apporter une autre culture dans le domaine des loisirs, de la musique, de l'entraide, de la fraternité. Nous avons besoin de retrouver ces fondements-là, de les replacer, de les replacer. La pierre de saphir, c'est la pierre de tribu de Dan. Et vous savez que, un petit détail, mais lorsque le temple de Salomon a été construit, il y avait une précision que Dieu a donnée, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on n'utilise aucun outil dans le temple. Pas de bruit de marteau, pas d'outil. Les pierres devaient être taillées ailleurs, mais pas dans le temple. Par contre, dans le temple, ces pierres qu'on avait taillées ailleurs, il fallait encore les polir. Et vous savez avec quoi on polissait les pierres ? Avec le saphir. Le saphir sert à polir. Ce n'était pas un outil, ça ne faisait pas de bruit, mais les derniers détails, si vous voulez, pour enchâsser les pierres, pour les mettre les unes à côté des autres, eh bien, on utilisait cette pierre de saphir pour faire disparaître les rugosités, les arêtes vives qui faisaient encore saillie. Vous voyez ? Et les architectes, les professionnels de la construction du temple de Salomon, se servirent, ils appellent ça la pierre chamire. Et c'est vraiment par rapport à ça, à polir. Et Dieu, dans l'Église, il polit. Nous sommes des pierres vivantes, nous sommes des saphirs. Nous sommes beaux. Dieu dit, c'est une belle pierre. Mais en même temps, ces pierres, elles se polissent et c'est normal. Et si on se laisse polir, on se laisse enchâsser, on se laisse ajuster. Et ça, c'est tellement important. Alors, dans ce texte, c'est intéressant parce qu'il est à la fois question de fondement, de rétablissement, en même temps que l'idée, Ésaïe 54, 14, tu seras affermi par la justice. C'est intéressant que l'idée de justice va avec l'idée de restauration et de rétablissement. Tu seras affermi par la justice. Alors dans Ésaïe, on voit que dans Ésaïe 54, 17, ensuite, il n'est plus question d'un serviteur, mais des serviteurs. Tout le long de la Bible d'Ésaïe, il est question d'un serviteur, annonce de Jésus. Et tout d'un coup, au chapitre 54, il est question des serviteurs. Les serviteurs, eh bien, c'est plus au singulier, c'est au pluriel, parce que la postérité du serviteur Jésus, eh bien, ce n'est pas seulement des juifs, mais c'est aussi des non-juifs. Ce sont ceux à qui Dieu dit « je leur fais justice ». Ésaïe 54 toujours, Ésaïe 56 aussi, « Dieu leur fait justice ». Donc, l'un des aspects du salut, il est présenté non pas en termes simplement de réconciliation avec Dieu, mais une réconciliation qui est basée sur quelque chose de légal, de juridique. Le salut a un côté juridique, légal. C'est la justice qui a été faite et c'est Dieu qui nous donne sa justice. C'est intéressant de nous rappeler, et on l'a déjà dit souvent, que la réforme en France a commencé par la redécouverte de la justice. Et donc, c'est pas étonnant, dans ce passage qui parle de restauration, il est question également de la justice. Je leur fais justice. Et voyez, l'un des aspects du salut futur est présenté ici en termes juridiques. Le prophète, il utilise l'image d'un procès. Le procès, c'est quoi? C'est Satan qui accuse et qui dit « Regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu n'as pas fait. » Mais la Bible nous dit que la justice nous a été donnée. Et c'est à cause de cette justice qu'il n'y a plus d'accusation. Une restauration d'une nation ne peut pas se faire sous l'esprit d'accusation du peuple de Dieu. Et nous avons besoin de sortir de l'esprit d'accusation, de comprendre que nous sommes justes. À chaque fois que nous voyons le mal chez quelqu'un et que nous le disons, nous n'avons pas compris qu'est-ce que c'est la justice. Quand Dieu nous voit, malgré nos faiblesses, malgré parfois nos échecs, Dieu nous voit revêtus d'un manteau de justice. Et l'exigence de Dieu, c'est que non seulement on se voit comme ça nous-mêmes, mais qu'on voit nos frères et sœurs de la même façon. C'est tellement important que notre discours sur nos frères et sœurs corresponde. Je peux analyser, je vous dis franchement, le discours sur le frère et sœur que nous avons, il est proportionnel à la révélation que nous avons de la justice. Si vraiment nous avons une révélation de la justice, nous ne pouvons plus critiquer, nous ne pouvons plus parler mal, parce que nous pouvons que voir avec les yeux que Dieu donne. Et lorsqu'il est dit, voyez, souvent on a entendu ce message, un jour l'Église sera parfaite, etc. Comme si elle n'était pas déjà parfaite. Elle est parfaite, l'Église, à cause du sang de Jésus. L'œuvre de Dieu est parfaite. Et à cause de ça, l'Église de Dieu est déjà parfaite. Dieu la voit parfaite. Et c'est ça, oui, tant qu'on se sent, on le répète souvent, mais rabougri, nul et tout ça, jamais. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. Mais se sentir revêtu de cette justice parfaite. Dieu ne voit pas, il ne va pas gratter derrière. Et vous savez, s'il y a quelque chose, si on tombe, on demande pardon, on dit « Seigneur, je reviens à toi ». Mais cette notion de justice, elle est tellement importante, déjà chez Ésaïe. Et il présente déjà cette notion de justification avant. La Bible dit que ceux qui posséderont le pays, ce sont les justes. Ce sont ceux qui se savent justes, justifiés par Dieu. Et dans le passage qu'on vient de lire, il est question d'une muraille de pierres précieuses. Et il est question de créneaux de rubis. Le rubis, vous savez, c'est des pierres rouges. C'est du rouge vif. Il semblerait que ce rouge, la particularité de ce rouge, c'est du rouge comme du sang. Alors les spécialistes des pierres, il paraît qu'il y a différentes couleurs de sang. Alors le sang de pigeon, par exemple, c'est un rouge vif, comme ça, c'est le sang de rubis, un peu ça. Et c'est la pierre de la tribu de Ruben. Et cette couleur rouge nous parle du sang de Jésus. C'est une pierre fondamentale, c'est la pierre à la base de notre foi, et c'est la pierre qui est dans la muraille. Alors, cette muraille nous parle aussi de la vision d'Église. Et la vision d'Église, c'est quoi? Eh bien, c'est la vision aussi de Néhémie qui a pleuré 4 jours sur la destruction du mur. Imaginez-vous, le temple était rebâti et le temple nous parle de l'Église dans son aspect culte. Et pourtant, quelle que soit la beauté de ce temple, Néhémie a pleuré. Il a pleuré sur quoi? Sur des murailles. Et les murailles, c'est plus que le temple. Les murailles, ça nous parle de la société. C'est à l'intérieur des murailles, autrefois, d'une ville qu'on bâtissait l'éducation, le commerce, le business, quoi. C'était à l'ombre, à la protection des murailles. Une ville sans murs, à l'époque, ne pouvait pas tenir, ne pouvait pas prospérer. Il fallait des murs. Et la Bible utilise le mur comme une image de l'impact de l'autel de notre adoration à Dieu sur la société. Et ce mur, il est construit avec des pierres vivantes, bien sûr, mais avec d'autres valeurs que celles qu'on voit aujourd'hui, avec d'autres fondements philosophiques, théologiques que ce qu'on voit aujourd'hui, dans tous les domaines. Et ce tous les domaines, cette pertinence de l'évangile pour tous les domaines, ça nous parle de réforme. Les murs, c'est la structure extérieure à l'intérieur de laquelle tout peut croître. Une autre vision du monde peut grandir, un autre investissement. Moi, je prends l'exemple, par exemple, de l'évangélisation de l'Europe. Et rappelez-vous, les moines irlandais, hein, l'Alsace a été évangélisée par les moines irlandais. Ils ne se sont pas contentés de l'évangélisation. Et ces gars-là, quand ils arrivaient, c'était signe, prodige, miracle, imposition des mains, miracle. C'était vraiment ça. Mais ils ne se contentaient pas de ça. Ils disaient, nous, ce qu'on veut, c'est des lieux aussi d'adoration. L'abbaye de Murbach était un lieu d'adoration 24 heures sur 24. Et c'était une adoration et aussi un lieu d'art où l'on peignait, où vous avez, par exemple, le rétable d'Issenheim, c'est encore autre chose, c'est le Moyen-Âge, ça. Mais ça parle encore aujourd'hui. Des gens viennent du monde entier pour voir ce rétable d'Issenheim. Et dans cette même ville d'Issenheim, je me rappelle, c'est cet ancien élève qui a été jeté de l'école d'infirmerie, où il faisait un stage à Issenheim, parce que simplement... Il avait donné un témoignage écrit à une fille qui venait de faire une tentative de suicide. Et on lui a dit, ben maintenant tu choisis. Tu choisis pas, non, maintenant tu es viré. Et donc ce témoignage du Christ n'est plus supporté parfois. Mais pourtant, il y a des œuvres qui parlent encore des siècles après, des œuvres d'art. Donc ces moines, ils levaient des lieux de formation. Et c'était dans ces lieux de formation qu'une nouvelle génération était levée. Et cette nouvelle génération a grandi avec une autre mentalité. Si on veut toucher notre monde, nous avons besoin de déraciner une génération entière pour l'enraciner dans un arbre de vie. C'est pourquoi, en tant qu'Église, nous soutenons l'école Emmanuel, le collège Daniel, comme un des mandats principaux. Ça nous donne beaucoup de travail, mais en même temps, eh bien, c'est la vision de Dieu. C'est la vision du mur. Ça fait partie du mur. Et puis l'Église... elle est souvent malheureusement reléguée dans les domaines du privé. Et Dieu dit dans Éphésiens 4 que, eh bien voilà, il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs pour le perfectionnement des saints, et je cite l'Écriture, en vue de l'œuvre du service. Et l'œuvre du service, c'est quoi? Est-ce que c'est le travail dans l'Église? Mais non. L'œuvre du service, c'est pour tout, pour la société, pour le royaume de Dieu qui est partout. Donc, le pourquoi il y a des apôtres, des prophètes, des ministères, c'est pour former des gens pour l'œuvre du service qui a une dimension qui est tout à fait importante et qui touche à tous les domaines. Donc, le ministère de l'Église est aussi un ministère pour l'extérieur. Caleb en est l'expression. Et Caleb, est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que ça veut dire? Pas le comité Caleb, hein, mais les autres dans l'église. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Émilie? Émilie, la porte, elle est là. Bon, c'est un mot arabe, ça veut dire chien. En hébreu, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Ça veut dire cœur. C'est le cœur en arabe? Et Caleb, alors pourquoi on dit qu'on a? Ah, voilà. Donc c'est le cœur. D'accord, et eh bien voilà. Donc c'est une prononciation. Donc une arabophone nous corrige, c'est super. En hébreu, c'est le cœur aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Centre d'action K. Elle, par les loisirs, entraide et bienfaisance. Voilà. Vous voyez? Et en fait, les deux sont liés. Parce que l'expression du cœur de Dieu, il est pour tous les domaines. Il est pour le domaine de l'entraide. Il est pour le domaine de la bienfaisance. Il est pour le domaine des loisirs. Il est pour le domaine de la culture. Et ça, c'est... Et selon que notre cœur est plus ou moins élargi, eh bien, notre champ d'action va être plus ou moins élargi. J'ai dit souvent, la taille de notre cœur, c'est la taille de notre main. Au niveau physique, dans une main, tu peux tenir un cœur. Si ton cœur est grand, eh bien, ça va élargir le champ de ton action. Dans Matthieu 25, il nous est rappelé, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous était préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. » Quelle est la vision du vestiaire ? J'étais nu et vous m'avez vêtu. Et regardez bien, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, car j'étais nu, vous m'avez vêtu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de possession du royaume possible sans revêtir ceux qui sont nus. Donc, si on veut une église qui voit le règne de Dieu s'établir, nous avons besoin de revêtir ceux qui sont nus. Donc, la vision du vestiaire, c'est la vision du Christ lui-même. Et c'est pour ça que je fais encore un appel, mais quand tu vas au vestiaire, tu le fais pour Christ. Et chaque personne qui vient, tu vois l'image de Dieu dans cette personne. Et c'est le Christ lui-même que tu revêts. Donc, c'est pas faire du business, c'est pas faire des œuvres parce qu'on voudrait faire des œuvres. On touche le cœur de Dieu. Et cette œuvre-là, j'en suis persuadé, comme d'autres qui doivent suivre, est la porte d'entrée dans la possession du royaume. Et donc, je vous fais grâce de toute la lecture de Matthieu 25, mais nous avons là le cœur de Dieu. Donc, le mur est composé de valeurs construites de génération en génération. Et il est bâti sur de solides fondements. Vous savez, aujourd'hui en Israël, vous allez voir les restes du temple de Salomon. Nous avons juste les fondements. Ce sont des pierres de plusieurs tonnes. C'est énorme, ces pierres de fondement. C'est là où ils prient devant, mais c'est énorme, ces blocs de pierre. Et ça, ça nous parle de la solidité. Rappelez-vous, l'année passée, en tant qu'église, on se rend compte que tout d'un coup, il manquait des fondements. Au niveau physique, il a fallu mettre des pylônes de soutènement dessous. Et Dieu nous a dit, non, ça fait 2 ans déjà, Dieu nous a dit, il manque un fondement. Et tout d'un coup, on accueille un orateur du Mexique. C'est le fondement de la justice. Et ce fondement-là, Dieu veut qu'on continue à le recevoir, à le chérir. La voix de l'Éternel, Proverbe 10, verset 29, la voix de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité. Et ensuite, il est question de portes. Dans la muraille, il y a des portes. Et les portes, il y a des portes en pierre d'escarboucle. Et l'escarboucle, c'est encore une pierre précieuse. Et l'escarboucle, ça nous parle, vous savez, chaque tribu a une pierre précieuse, le grand sacrificateur, un peu comme... j'ai vu quelqu'un qui avait une sorte de robe de sacrificateur, là, je crois que c'était... Laetitia, voilà, avec des diamants sur le pectoral. Eh bien, ils portaient, chaque tribu avait une couleur. Et ces couleurs, eh bien, la tribu des Lévites, c'était l'escarboucle. Et l'escarboucle, c'était encore une pierre rouge, rouge grenat. Vous savez que le grenat, ça vient du mot granatum, qui veut dire grenade. C'est un fruit, et c'est un fruit qui a la caractéristique d'avoir énormément de graines à l'intérieur. C'est le fruit par excellence qui a plein de graines. Et ces graines nous parlent de la semence, l'abondance de semences, la fertilité. La grenade, c'est le symbole de la fertilité et de la justice en l'abondance de ces graines. Alors voyez, ça parle des ministères qui sont là. Éphésiens 4, 11, il a donné les apôtres, etc. pour l'œuvre du service. Et maintenant, j'aimerais rappeler rapidement les portes d'escarboucle. Quelles sont-elles ? Il y en a plusieurs. Et dans cette muraille qui a été décrite par Ésaïe, qui était aussi décrite par Néhémie, eh bien, il y a plusieurs portes, j'en ai déjà parlé. Je reviens très succinctement là-dessus, mais il y a la porte des brebis. Et la porte des brebis nous parle de l'évangélisation, nous parle d'un cœur pour les perdus. C'est une porte dans la muraille, et c'est une porte qui parfois est restée fermée longtemps, mais que Dieu veut rouvrir. Et puis, il y a la porte des poissons. Donc, la porte des brebis, pardon, on va dire plutôt c'est le Christ, la seule porte pour les brebis. La porte des poissons, juste à côté, les poissons, ça parle de l'évangélisation. Je vous ferai pêcheur d'hommes. Donc, cette notion de pêcheur, de filet rempli, nous parle de l'évangélisation. Donc, porte des brebis, c'est le Christ, fondement. Porte des poissons, évangélisation. La vieille porte. Et la vieille porte, rappelez-vous, c'est un rappel, on en a déjà parlé, hein, le message de mars 2008, ça fait un peu vieux, mais je reviens dessus quand même rapidement. La vieille porte, c'est tout l'héritage spirituel, les puits anciens, nos racines. Et je pense qu'on ne peut pas impacter notre pays sans revenir à des racines. Pourquoi Dieu a un mandat particulièrement ici ? Nos racines... Actuellement, ici, c'est le pays, bien sûr, mais c'est cette vallée. C'est pour ça qu'on est une église dans cette vallée, parce qu'il y a des racines dans cette vallée, et il y a des que Dieu n'a pas donné ailleurs. Et Dieu nous dit, voilà, les racines irlandaises, les racines de l'évangélisation, de la formation et de l'adoration, elles ont été là pendant des siècles. Des gens de toute l'Europe venaient ici. Je pense au couvent des Dominicains aussi, lieu de formation intellectuelle. Les Dominicains, c'était des sacrés théologiens. C'est pas étonnant que le Moyen-Âge ait été une culture chrétienne, parce qu'on mettait le paquet de la formation. Et donc, Guebwiller et cette région nous parlent de la vieille porte, reprendre l'héritage. Il y a tellement, souvent, dans le milieu évangélique, souvent, on fait abstraction de l'héritage. On s'en rappelle plus. Moi, je me rappelle un jour, je discutais avec un pasteur lui parlant de cet héritage des écoles protestantes, il s'est mis à pleurer. Il a dit, mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Et parce qu'on ne sait pas, on n'agit pas. Et le Seigneur veut nous rappeler le prix qui a été payé pour une réforme dans ce pays et que Dieu veut ramener à nouveau. Alors voilà la porte de la vieille porte. La porte de la vallée. La porte de la vallée, c'est la porte de l'épreuve. Mais l'épreuve, mes amis, c'est un lieu de révélation. C'est un lieu de révélation. Psaume 84, verset 6. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de bénédictions. La bénédiction et la révélation ne viennent pas seulement quand tout va bien. Au contraire, ça vient souvent quand on accepte de marcher dans la vallée de Baca. Et Dieu ne nous dit pas, je t'enlève de cette vallée. Mais Dieu nous dit, dans cette vallée, j'ai quelque chose à te montrer. Et des églises parfois passent par des vallées. Nous avons passé par des vallées. Nous sommes passés par des vallées. Et je pense à les secousses qu'on a eues au premier trimestre scolaire. Ça n'a pas été facile. Ce décès, ça n'a pas été facile. Un départ, etc. Mais Dieu dit, dans cette vallée, il y a de la source. Il y a quelque chose. Et puis aussi, il y a la porte du fumier. On sortait là tous les immondices de la ville. Pour les amener dans cette vallée, ça nous parle de la sainteté, c'est-à-dire qu'on va accepter de lâcher ce qui déplaît à Dieu. Et ce n'est pas avec nos propres forces, on a besoin de la force de Dieu. Hein. Mais Dieu, le Christ en nous qui grandit, eh bien, petit à petit, ça éjecte tout ce qui est impur, ça l'éjecte. Cherche pas à éjecter toi-même tout seul ce qui est impur, mais laisse le Christ grandir en toi. Loue l'Éternel, rentre dans sa présence et ça éjecte les impuretés. La porte des eaux, la porte des eaux, les eaux vives, les eaux pleines, les eaux comme cette peinture qui est là avec cette vague qui est en train d'engloutir, ou alors comme cette peinture, je ne sais pas où elle est, de Guebwiller, où on voit l'eau qui remplit la vallée de la rue de la République. Les eaux nous parlent du Saint-Esprit, nous parlent du Saint-Esprit. Et nous avons vu le Saint-Esprit agir dans cette région en vision. Et je crois que Dieu veut le faire en réalité. Donc ça parle de l'Esprit, le ministère du Saint-Esprit. La porte d'Éliashib nous parle, je vais pas aller dans les détails, mais nous parle la porte des ministères. Dieu veut lever des ministères encore au milieu de nous. La porte des chevaux. Alors les chevaux, Proverbe, ça parle de la guerre. Les chevaux, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, Proverbe 21, 31. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ça, c'est le combat spirituel. Non pas le combat spirituel avec nos propres forces, mais basé sur la justice et sur l'héritage que Dieu nous a donné. La porte de l'Orient, et je termine bientôt, c'est la porte où on pense que Jésus reviendra, et c'est la porte du soleil levant, c'est la porte, ça annonce l'onction prophétique. L'onction prophétique sur les petits, sur les moyens, sur les grands, l'onction prophétique. Et la dernière porte, la porte de Mifkad. Mifkad, c'est la porte du commandement, de la surveillance et la notion des veilleurs qui sont là. Donc voilà rapidement. Et comment se termine ce passage d'Ésaïe ? Les pierres, la muraille, les fondements. Et tout ça, ça va donner quoi ? Ça va donner une génération de disciples. Et tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Sans muraille, pas de disciples. Sans temple, pas de disciples. Mais la muraille, le temple, ensemble, les pierres, les unes proches des autres, attachées les unes aux autres, c'est ça qui forme la muraille. Et puis alors, je termine par ce verset. Qu'est-ce que nous voulons ? Nous ne sommes pas ici parce que nous voulons transmettre à la génération d'après un beau bâtiment. Le bâtiment, c'est le moyen d'accomplir l'œuvre de Dieu. Absalom, il n'avait pas de fils. Et dans 2 Samuel 18-18, il est dit, de son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi. Car il disait, je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. Et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui le monument d'Absalom. Est-ce qu'on veut bâtir des monuments ou est-ce qu'on veut des fils et des filles ? Et c'est parce que nous voulons des fils et des filles que nous voulons une muraille rétablie. Et pas seulement des fils dans la chair et des filles, mais des fils et des filles spirituelles. Je rappelle que des fils et des filles, ce n'est pas des chrétiens seulement. Ce sont des jeunes ou des moins jeunes qui vont avoir assez de maturité pour recevoir l'héritage et rentrer dans l'héritage. Un fils et une fille, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il existe, quels sont les dons qu'il a, et quelle est la mission qu'il a, et quel est l'héritage qu'il a. C'est ça, un fils et une fille. C'est pas être membre d'église. C'est beaucoup plus que ça. Et Dieu cherche, ça commence par être membre, on est membres les uns des autres, mais dans l'onction qu'on vit ensemble, dans les temps de louange, dans les temps de prédication, etc., il y a quelque chose de l'intention de Dieu qui passe à chacun de nos cœurs. Et simplement, on est appelé à répondre, ben, Seigneur, me voici, me voici. C'est ce qu'on veut faire. On veut simplement prier maintenant. Et Seigneur, merci pour cette parole d'Ésaïe, prophète de la restauration en des temps de grands troubles internationaux. Prophète des nations, prophète qui a parlé de la venue d'un peuple nouveau, composé non seulement de juifs, mais de toute nation. Des serviteurs qui ont été affranchis par la justice que Dieu donne et qu'on n'a pas à acquérir par nous-mêmes. Seigneur, merci pour le temple, merci pour l'autel d'adoration ici, merci pour la muraille. Ces bouts de muraille que sont ces écoles, ces bouts de muraille qu'est ce vestiaire, ces bouts de muraille que sont encore ces rêves qui ne sont pas encore incarnés, mais que tu as mis dans nos vies et dans nos cœurs. Et Seigneur, nous annonçons dans cette région et dans notre pays une réforme, une génération de fils et de filles qui rentrent dans un plein héritage et qui vont impacter tous les domaines de notre société. Merci parce que ce n'est pas seulement un évangile du salut que l'on prêche, mais un évangile du royaume, qui est une reprise du monde de la formation, du monde de l'économie, du monde de la justice, etc. Seigneur, merci du rêve que tu as mis dans nos cœurs. Et nous transmettons le flambeau aujourd'hui et nous appelons nos fils et nos filles à continuer ce rêve et à continuer la course avec nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bénis chacun de nous Seigneur et qu'on soit ces pierres vivantes bien encastrées les unes aux autres, pas seulement avec toi, mais les uns avec les autres. Merci Seigneur. Bénis chacun, bénis les enfants, bénis les plus âgés au milieu de nous et que cette famille, comme dans Néhémie, se lève et que par famille, chacun à son poste, on rebâtisse la muraille. Amen.